Bonjour.
Si depuis le jour de votre naissance et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais eu le moindre souci, le moindre problème, la moindre épreuve, si jamais, pas une fois depuis le jour de votre naissance, vous n'avez eu à subir les attaques des angoisses, à traverser des deuils, des épreuves et toutes sortes de publicités, de difficultés, eh bien dans ce cas, vous auriez mieux fait de rester chez vous, parce que ce qui suit ne vous concernera en rien. Mais, si comme tout un chacun, vous avez votre part de haut et de bas, des moments de vie lumineux, de joie, de bonheur, mais aussi des traversées de vallées d'épreuves et d'ombres de mort. Alors peut-être ce qui suit méritera-t-il un peu de votre attention. Je ne crois pas que Dieu se réjouisse devant le spectacle de nos souffrances. Pas plus que je ne le crois indifférent à nos abattements ou nos détresses, à celles et ceux qui peut-être aujourd'hui, ici ou en visio, sont dans ce type de présent-là. Je rappelle que dans la parole, Dieu est défini comme étant un Dieu compatissant. Et je rajoute un qualificatif que je vous invite à recevoir avec toute l'épaisseur et la densité qu'il mérite. Dieu, notre Dieu, est un Dieu sensible, à ce qu'il advient à ses enfants. Ce matin, nous allons étayer notre réflexion à partir de deux textes de la parole de Dieu. Le premier nous est rapporté dans le livre de Josué. Mais avant de lire les deux ou trois versets qui vont nous intéresser, je voudrais très très rapidement brosser le contexte historique. Après 40 ans d'errance dans le désert, le peuple a traversé le Jourdain et se trouve enfin arrivé en terre promise. On imagine que pour Josué, succéder à Moïse n'a pas dû être chose très facile. Aussi, dès le premier chapitre de ce livre, Dieu lui adresse ces magnifiques paroles d'encouragement. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. » Avant d'envoyer les hommes d'armes conquérir la ville de Jéricho, le Seigneur avait donné un ordre. Nous lisons « Gardez-vous de ce qui est frappé d'anathème, de peur que vous ne rendiez anathème le camp d'Israël tout entier. Tout l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer seront consacrés au Seigneur, ils entreront dans le trésor du Seigneur. » Hélas, au cours de l'attaque, un nommé Akan, A-K-A-N, Akan, ne résiste pas à la tentation et s'empare d'une partie du butin. Il se précipite sous sa tente, il creuse un trou et cache son larcin. Aussitôt, le peuple d'Israël subit une cuisante défaite. Et c'est là qu'intervient notre petite lecture, quelques versets. Dans le livre de Josué, au chapitre 7, nous lisons au verset 4. « Environ 3 000 hommes du peuple montèrent à l'assaut, et ils durent s'enfuir devant les hommes du Haï. Les hommes du Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente.
Le cœur du peuple fondit comme de l'eau.
Josué déchira ses vêtements et tomba face contre terre devant le coffre du Seigneur jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête et Josué dit « Ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple si c'était pour nous livrer aux Amorites et pour nous faire disparaître ?»
Verset 10, le Seigneur dit à Josué « Relève-toi, pourquoi tombes-tu face contre terre ?» Voilà pour la première lecture. Le deuxième de nos textes se trouve, lui, dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans le livre des Actes, au chapitre 14. Ici encore, faisant à grands traits le tour du contexte historique. L'apôtre Paul et Barnabé se rendent dans la ville d'Iconium. Ils y prêchent, ils y annoncent la bonne nouvelle, ils y pratiquent des miracles au point qu'on les prend pour des réincarnations des dieux, et beaucoup de Grecs et de Juifs se convertissent, mais pas tous. Une faction de Juifs réfractaires décide de se saisir d'eux pour les lapider. Paul et Barnabé sont informés de ce projet et ont le temps de s'enfuir jusqu'à la ville de Lystre. Deuxième texte, en réalité deux versets seulement, Actes chapitre 14, versets 19 et 20. Donc, les deux apôtres sont déjà dans la deuxième ville, à Lystre. Sur ces entrefaites arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui persuadèrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples l'entourèrent, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbé avec Barnabé. Comme vous avez été hyper attentif, je vais vous infliger une question. D'après ce qui vient d'être dit et lu, à votre avis, existe-t-il un point commun entre ce que Josué et Paul ont vécu? Et si oui, lequel? Un point commun entre Josué et Paul, entre ce qu'ils ont vécu. Un peu plus fort? La peur, oui, je pense qu'ils ont eu très très peur. Mais encore, la sensation d'être abandonné. Forcément, à un moment ou à un autre, ils ont été traversés par cette sensation-là. Le fait d'être toujours accompagné qui m'amène à la réponse « merci ». Josué 7, chapitre 7, verset 10, « Le Seigneur dit à Josué, relève-toi. » Actes chapitre 14, verset 20, « Quand les disciples l'entourèrent, Paul se releva. Après avoir été tous deux à terre, tous deux se sont relevés. Relève-toi » sera le titre de notre méditation de ce matin, et c'est un sujet que déjà Lionel a amorcé, mais nous allons y arriver par un autre angle, c'est-à-dire à travers le prisme de l'épreuve. Alors, deux commentaires. D'abord, le cas de Josué. On a envie de dire « le pauvre ». Le voilà écrabouillé par l'incompréhension. Et dire que pour lui, tout avait si bien commencé. Déjà, au chapitre 31 du livre précédent, qui est le Deutéronome, nous lisons au chapitre 31, verset 7, « Moïse appela Josué et lui dit, sous les yeux de tout Israël, « Sois fort et courageux, c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays du Seigneur. »
Verset 8, « Le Seigneur lui-même marche devant toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Et nous l'avons lu tout à l'heure au chapitre 1 du livre de Josué, Dieu lui-même lui dit « Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié. » Bon, après la traversée du Jourdain, tout s'était bien passé. La ville de Jéricho avait cédé au son de la trompe et soudain, patatras, c'est la raclée. Et alors, nous voyons notre pauvre Josué exprimer son désarroi en usant de tous les codes propres à la culture comportementale de son époque. Il déchire ses vêtements, il tombe face contre terre, il se jette de la poussière sur la tête et surtout, surtout, il bloque sur une question que nous connaissons très bien pour la poser assez régulièrement. Verset 7. Ah Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Et il poursuit, et maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire ? Que dois-je faire ? Vous savez, nous avons dans la langue française un mot qui définit bien ce type de situation. C'est le mot impasse. Josué est dans une impasse. Avant d'aborder le commentaire suivant à propos de l'apôtre Paul, je voudrais ici prendre un instant pour faire une remarque fondamentale, capitale. Il s'agit de quelque chose que nous pourrions aisément passer sous silence, tellement le fait est peu saillant et semble de peu d'importance, et pourtant, l'adresse que Dieu fait à Josué, le fameux « relève-toi », n'intervient pas immédiatement, mais seulement après que Josué ait eu tout le temps d'exprimer son incompréhension, ait eu le temps d'exprimer son affliction et poser ses pourquoi. Seulement après qu'il soit arrivé au bout de la verbalisation de ses ressentis. Dieu a respecté ce temps nécessaire. Il a laissé passer sans exprimer un seul reproche. Il a juste attendu le moment favorable pour que Josué soit en capacité de recevoir la piqûre revitalisante du « relève-toi ». Deuxième commentaire. Ben écoutez, ce qui arrive à l'apôtre Paul n'est pas banal non plus, parce qu'il ne subit rien moins qu'une lapidation, et pas un simulacre de lapidation, puisque tout le monde est convaincu qu'il est mort. Enfin, pour être dans un état pareil, on imagine qu'il devait souffrir de contusions multiples, de plaies, de fractures, peut-être en tout cas de traumatismes crâniens. Bref, on le jette à l'extérieur de la ville, comme on se débarrasse d'un rebut encombrant à la déchetterie. Mais voilà que la victime se relève, et comme Josué autrefois, il est à nouveau debout. Et qui plus est, nous dit le texte, le lendemain, Paul partit pour Derbé avec Barnabé. On imagine cet homme perclus, brisé, qui se relève. À votre avis, a-t-il passé une nuit sereine, très reposante, avant son départ pour le lendemain ? N'existe-t-il aucune éventualité pour admettre que les pas de cette remise en marche, d'une manière ou d'une autre, lui aient coûté ? Avant d'en arriver à notre troisième commentaire, ici aussi, je voudrais faire une remarque qui me semble importante. Si Josué s'est remis debout grâce à l'intervention directe de Dieu, Paul, lui, se relève après que les disciples l'aient entouré. Entre le moment où il est laissé pour mort et le moment où il se relève, ses frères en Christ ont été auprès de lui. Et à ce propos, il est intéressant de noter que, quelles que soient les versions considérées, chacune porte en soi l'idée de faire cercle autour. Alors, il y a beaucoup le verbe entourer qui est conjugué à sous plusieurs formes. Cinq exemples. Les disciples l'ayant entouré, les disciples l'entourèrent, les disciples l'ont entouré. On trouve les disciples étant assemblés autour. Et la Bible de Jérusalem propose les disciples faisant cercle autour de lui. Nous voici arrivés au troisième développement. Avec cette question, à partir de ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons en retirer ? J'entends de moins en moins, mais il me semble qu'il y a un téléphone qui sonne quelque part. À l'annonce de la défaite, nous dit le verset 5 du chapitre 7 à Josué, vous vous souvenez, le cœur du peuple fondit comme de l'eau. N'y a-t-il jamais eu pour nous, n'y a-t-il pas des circonstances de nos vies où nous avons l'impression que nos cœurs fondent comme de l'eau ? Reconnaissons-le. Dans nombre de nos impasses, il nous arrive d'être effrayés, d'être terrifiés. Et pourquoi le sommes-nous ? Eh bien parce que nous ne sommes ni forts, ni courageux. Ah Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Le lendemain, Paul partit pour Derbé. Au chapitre 7 qui vient de nous raconter l'impasse de Josué, le verset 16 se réfère lui aussi à une forme de lendemain. Nous lisons au verset 16, « Josué se leva de bon matin. » Question. Avait-il, lors de ce réveil de bon matin, totalement oublié la catastrophe qui la veille l'avait jetée face contre terre ? Était-il frais, dispos, comme si de rien n'était ? Je ne le pense pas. Cependant, le texte nous dit « il se leva ». Mais comme Paul, sans doute, n'avait-il rien oublié ? Lorsqu'après nos épreuves, notre Père Céleste nous dit « relève-toi », cela ne signifie nullement « passe à autre chose, oublie, allons, n'y pense plus ». Non, il reste celui qui respecte le temps de nos deuils, qui considère comme légitime notre nécessité d'exprimer nos incompréhensions, d'exprimer nos « Ah Seigneur, pourquoi ?» Il attend seulement, avec une infinie patience, que s'apaisent les tempêtes de nos colères et de nos hurlements intérieurs. Il attend que s'apaise un peu le flot impétueux et dévastateur de nos pourquoi. Et c'est seulement alors, avec bienveillance, qu'il nous invite à nous tenir à nouveau debout. Oh, nous sommes souvent des debout titubants, à l'équilibre précaire, mais debout. Relève-toi. En tout cas, Ce n'est qu'une fois remis sur pied que nous pouvons tout à nouveau reconsidérer et voir quelles sont les lignes et les perspectives des plans de Dieu pour nous. Et cela nous fait comprendre que Dieu est aussi le Dieu de l'après. Relève-toi. Il y a un après. Il y a un lendemain. Vous savez, la Bible fournit pléthore d'exemples de ce triple scénario. Il y en a une ribambelle. Acte 1, abattement, impasse, face contre terre. Acte 2, relevaille. Et acte 3, le temps de l'après, le lendemain. J'avais prévu de vous faire une tartine d'exemples de ces références, et puis j'ai craint d'être un peu long, donc je n'en ai retenu qu'un seul. Dans le livre des Actes, chapitre 26, Paul présente sa défense devant Agrippa, et il raconte notamment l'épisode où il est tombé à terre sur le chemin de Damas. Que dit l'apôtre ? Verset 15. J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je te destine à être serviteur et témoin. » Ce « je te destine » indique clairement ici l'après ou le lendemain de l'apôtre Paul. Encore autre chose. Lorsque dans une concordance, on parcourt la liste des références qu'on trouve sur le verbe « se lever » ou « se relever », on observe que ces deux verbes sont en binôme avec un verbe d'action. Ils sont en équipe. Je vous donne cinq exemples très rapides. Premier livre des rois à propos d'Élie, « Lève-toi et mange. » 1 Chronique 22, « Lève-toi et agis. » 2 Chroniques 6, « Lève-toi, viens. » Michée 2, « Levez-vous et marchez. » Et enfin, bien évidemment, volontairement gardé pour la fin, comment ne pas citer ici la phrase de Jésus après qu'il ait guéri le paralytique, une citation qui est trois fois mentionnée dans Matthieu chapitre 9, Marc chapitre 2, Luc chapitre 5, Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit ou ta paillasse et marche !» Dieu veut que ses enfants soient debout. Alors là, on va faire un peu les Gédéon. En faire preuve de mauvaise foi. Debout, d'accord, mais pourquoi faire? Si c'est pour trimballer debout les casseroles qui nous ont mis par terre tout à l'heure, à quoi bon? Lève-toi, relève-toi, prends ton lit et marche. Marcher, ok, pourquoi pas. Mais enfin, pour aller où? Mais c'est quoi le sens de tout ça? Ah, Seigneur, pourquoi? Eh bien, pour au moins deux raisons. Pour les deux S. Pour les deux quoi? T'as compris ce qu'il vient de dire, là? Non? Can you repeat, please? Ah oui, je repeat volontiers, volontiers. Je fais même mieux, je vais le dire autrement. Se relever pour s'impliquer dans la mise en pratique des enseignements que nous a laissés le Maître et que l'on retrouve dans deux verbes, chacun commençant par la lettre S. S comme suivre. Nous ne sommes pas des redressés du Seigneur qui errent au hasard de nos circonstances, non. Nous sommes des rachetés qui suivent Jésus-Christ, parce que, Lionel nous l'a rappelé, il a donné sa vie pour être notre seul guide, notre seul modèle. Nous le suivons parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui indique le sens. C'est lui seul qui nous donne la direction qui conduit à la maison du Père. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, Seigneur, afin que je suive le chemin de ta vérité. Magnifique. Après, est-ce comme suivre? Est-ce comme servir? Nous n'avons pas à être des suiveurs stupides qui avancent les bras ballants. Nous devons marcher en mettant en pratique, les enseignements de Christ. Et nous devons le faire avec enthousiasme. Samuel chapitre 12, verset 20. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Encore quelques mots avant de conclure. Nous avons noté plus haut que l'apôtre Paul s'était relevé après que les apôtres et ses frères l'aient entouré. Nous, qui à bien des reprises avons été des relevés de Christ, soyons soucieux à notre tour de faire ou de savoir faire cercle autour de celles et ceux qui sont à terre au point parfois de passer pour mort. C'est là, dans ce cercle vertueux, qu'est notre place. Alors, outre qu'il y a les relevailles de la personne concernée, mais quelle joie c'est pour chacun et chacune des mobilisés de voir ce frère ou cette sœur esquisser à nouveau un pas pour reprendre son rang parmi les suiveurs et les serviteurs du Maître. Que dire en conclusion? Quelquefois, tels des Josué, nous nous retrouvons face contre terre parce que des personnes qui nous sont essentielles ont à souffrir. Parfois même, au point de nous être enlevés. Dans ce cas, ce sont nos êtres chers qui sont les cibles. D'autres fois, tels des Paul, nous nous retrouvons face contre terre parce que les épreuves s'abattent directement sur nous. Elles nous lapident, elles nous caillassent. Et dans ce cas, c'est nous-mêmes, physiquement, mentalement, psychiquement, qui sommes la cible. Alors, quel que soit le motif, le caractère ou la nature de nos impasses, Dieu y est sensible. Dieu y est sensible. C'est par amour qu'il entend nous relever. C'est par amour qu'il désire nous revoir debout. C'est par amour qu'il veut être le maître d'œuvre de nos reconstructions. Alors oui, c'est vrai. Pendant le temps de notre chair et jusqu'au moment de notre départ individuel pour l'éternel après, nos deuils resteront nos deuils. Nos cicatrices, toutes nos cicatrices, telles des stigmates, resteront indélébilement inscrites en nous. Telle est notre paillasse, tel est notre lit à trimballer au quotidien. Mais prenons courage, car ce n'est pas par nos propres forces que nous nous remettons debout, c'est par pure grâce. On a chanté un très beau cantique sur la grâce tout à l'heure. C'est par pure grâce.
Alors puisse chacune et chacun démarrer l'année qui s'ouvre devant nous en s'appropriant, sans les dissocier, ces paroles qui déjà pour Josué s'inscrivaient dans une parfaite complémentarité.
Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.
Sois fort, forte,
courageux,
courageuse,
car le Seigneur lui-même marche devant toi.
Relève-toi.
Amen.